VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Sénégal, 22 morts et 87 blessés dans une vingtaine dans un état grave. Tel est le tout dernier bilan de l'incendie qui a eu lieu hier au Dakar de Medina Gounas. Une retraite spirituelle qui réunit chaque année des milliers de musulmans dans la... à Kolda, à plus de 70 km au sud de la capitale. Plus de détails sur cette tragédie avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Des pèlerins pris au piège des flammes, des tentes, voitures et marchés occasionnels entièrement calcinés. La 76e édition du Dakar de Medina Gounas a viré au drame. Un feu d'une violence inouïe s'est déclaré vers 16h et s'est rapidement propagé sur ce sanctuaire religieux. Largement dépassé par la furie des flammes, les sapeurs-pompiers, sous-équipés et en sous-effectif, sont finalement parvenus à circonscrire le feu après des heures de lutte. Le Dakar de Medina Gounas est une retraite spirituelle qui réunit chaque année plusieurs centaines d'érudits et des milliers de fidèles musulmans. Elle se déroule dans la zone forestière du parc Nyokolokoba et est fréquemment le théâtre d'incendies. Cependant, la gravité de ce nouvel incendie est sans précédent et les causes ne sont toujours pas connues.
Sidina Abagui, à Dakar, pour VOA Afrique.
Au Mali, le nouveau gouvernement a été une déception pour la population, notamment à cause de sa taille et du nombre limité de femmes. Et puis parmi les 11 entrants, il y a quelques anciens qui avaient été limogés auparavant pour insuffisance de résultats. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré a recueilli des réactions de la population.
Salif Bengali, je suis administrateur de l'action sociale. J'ai vu la liste du gouvernement et j'étais vraiment étonné parce que je me dis que le chef de l'État est en train de perdre les pédales. De 33, on est à 35 membres malgré la crise qui frappe notre État. 35 membres dans un gouvernement, c'est pléthorique. On aurait pu former un gouvernement modeste de 20 membres maximum. Aujourd'hui, on a divisé certains ministères de telle sorte que certains ministres, apparemment, on ne sait pas quel sera leur rôle. Eux-mêmes n'ont pas de bureau. Ils sont comme des directeurs nationaux.
Moi, c'est Fama Keita. Le nouveau gouvernement aujourd'hui, c'est la déception totale. On sait qu'il ne peut rien foutre, surtout avec la crise sociale. Avant la constitution du nouveau gouvernement, on a des noms qui étaient dedans, mais avant, qu'ils étaient répétés par tout le monde. Et on a vu ces gens-là figurer encore. Alors, c'est décevant. Mais on attend juste 2018. Si ces gens-là sont venus pour triquer les élections en 2018, non, ils vont passer à côté.
Des réactions recueillies par notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré. En RDC, Jean-Claude Muyambo, un opposant considéré par ses pairs comme prisonnier politique, a été condamné à 5 ans de prison en appel par un tribunal de Kinshasa dans une affaire d'escroquerie. C'est ce qu'annonce aujourd'hui son avocat. Jean-Claude Muyambo a été reconnu coupable d'avoir vendu illégalement à son profit plusieurs immeubles appartenant à un ressortissant grec, ancien ministre passé à l'opposition en novembre 2014, il avait été l'un des meneurs de la contestation de janvier 2015 contre le pouvoir du président Joseph Kabila. Au Tchad, réaction du procureur général suite à l'attaque des prisonniers en état de transfèrement de la maison d'arrêt de N'Djamena à celle de Korotoro. Un incident qui a fait 10 morts et 2 blessés. Pour le procureur Maouli Loapambe Bruno, les auteurs de cet acte ne resteront pas impunis. On l'écoute.
Condamné à l'unanimité. Cette attaque a aussitôt suscité le déplacement des autorités judiciaires, dont le ministre de la Justice et moi-même, et les éléments de force, de défense et de sécurité, qui ont fait un constat des lieux avant de lancer les recherches, tant en ce qui concerne d'abord et surtout les assaillants en fuite, et ensuite pour les détenus dispersés dans la nature à la suite de la dite attaque. Dans tout état de droit, un tel acte ne saurait rester impuni. C'est pourquoi, en sus de recherches, lancée par les autorités, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet d'instance du tribunal de grande instance de N'Djamena pour identifier les auteurs de cet acte condamnable en vue de leur interpellation pour répondre de leurs actes. Car nul n'est au-dessus de la loi pour prétendre se soustraire des dispositifs répressifs mis en place par l'État. La justice de notre pays, en tant que gardien des droits et des libertés, se sent directement interpellée par une telle bavure et doit tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue aux victimes.
Le procureur Maouli Loapambe Bruno à N'Djamena au Tchad. Violence en RCA maintenant, deux chefs de milice accusés de contribuer à l'instabilité dans le pays, maintenant placés sur la liste des sanctions économiques des États-Unis. Une décision qualifiée de message fort au groupe armé en RCA. Jacques Aristide
Le Trésor américain a ciblé Abdullah Hissen, leader de l'ex-Séléka, la rébellion à dominante musulmane, qui avait renversé le président François Bozizé en 2013. Également sanctionné, Maxime Mokom, figure des milices chrétiennes anti-Balaka, qui avait lancé la contre-offensive après le coup d'État, provoquant des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. D'après Washington, ces chefs rebelles ont perturbé le référendum constitutionnel en 2015. Et ont fragilisé en 2016 l'autorité du président Foster Kanje Touadéra. L'an dernier, Abdullah Hissen et un groupe armé avaient engagé des combats avec les forces centrafricaines avant d'échapper aux soldats de l'ONU. Les deux hommes verront leurs éventuels avoirs aux États-Unis gelés. Pour l'ONG américaine Enough Project, cette décision est une note d'espoir dans la lutte contre l'impunité, mais les sanctions, selon elle, doivent vraiment se traduire dans la réalité, particulièrement dans le commerce de l'or, du diamant et du bois centrafricain.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les relations américano-russes, loin de s'améliorer, les discussions d'hier du secrétaire d'État américain Rex Tillerson à Moscou avec son homologue russe Sergei Lavrov, puis le président Vladimir Poutine, n'ont pas permis de trouver une solution commune à la crise syrienne. Dans la soirée, la Russie a opposé son veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU introduit par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Un texte qui visait à exiger une enquête internationale sur l'attaque chimique de Khan Cheikhoun imputée au régime du président syrien Bachar al-Assad. Pour analyse, Eric Manirakis a joint à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
Tous les deux, les États-Unis et la Russie, ils ont un intérêt maintenant à avoir un peu de tension entre les deux gouvernements. Président Trump a été un peu trop gentil avec Poutine pendant la campagne et les services de renseignement américains ont révélé que les Russes sont intervenus dans notre élection pour aider Trump. Donc, pour Trump, c'est très important de ne pas être trop gentil avec Poutine en ce moment. De l'autre côté, la Russie a été accusée d'avoir intervenu, donc eux aussi doivent montrer qu'il y a un peu de tension. Donc, je ne trouve pas que ce soit très important, cette tension. De l'autre côté, on peut dire qu'il y a un vrai désaccord entre les deux. La Russie insiste à soutenir Bachar al-Assad, un vrai monstre, parce qu'il a tué plus que 400 000 Syriens, ses propres citoyens. Et l'Amérique veut en finir avec cette guerre. Donc il y a une vraie tension à cause des différentes perspectives stratégiques.
Qui mène la danse aujourd'hui?
Oh, je crois que tous les deux ont un intérêt mutuel. Maintenant, il y a une enquête aux États-Unis par les deux chambres de notre Congrès sur l'intervention russe dans notre élection et ça a l'air d'être très sérieux. Il paraît qu'il y avait même des gens de Trump qui ont coopéré avec les services russes. Donc ça, c'est très sérieux. Et donc, avec cette frappe, président Trump a changé le narrative un peu. Il a dit, voilà, je ne suis plus sur la même page que les Russes. Mais il faut attendre que les enquêtes se terminent. Et je crois que les discussions à Moscou n'ont rien changé.
Tant qu'on ne verra pas le bout du tunnel.
Pour le moment, non. Je ne crois pas que l'Amérique et la Russie vont coopérer sur la Syrie. Peut-être sur les autres sujets, Corée du Nord, par exemple.
L'administration Obama a été beaucoup critiquée pour n'avoir rien fait en Syrie. Si Bachar al-Assad se maintient, est-ce que les mêmes critiques ne vont pas être valables pour l'administration actuelle?
C'est possible, mais en général, notre politique aux États-Unis maintenant se concentre sur la politique intérieure. Il y a beaucoup d'Américains qui ont voté pour Trump parce qu'ils désirent le changement. Il y a une grande population de gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas eu une augmentation de salaire. Ils ont des problèmes financiers. Donc, personne ne va voter pour les problèmes d'affaires étrangères aux États-Unis.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Et pour terminer, le géant des réseaux sociaux Facebook a annoncé son intention d'accroître sa lutte contre les fausses informations, les fake news, via la surveillance des comportements suspects, comme les messages répétitifs ou massifs. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.